Vous écoutez France Musique.
Merci Rodolphe Bruno Boulmier.
Et à la semaine prochaine.
Leur belle saison. Nicolas Lafitte et Jean-Baptiste Urbain.
Quand il joue, vous avez la chair de poule, quoi. Et ça s'explique pas forcément. Il vous prend par la main et puis il vous emmène avec son instrument comme s'il chantait. C'est son plus à lui, je crois, voilà.
C'est quelqu'un qui a vraiment très peu de limites, à la fois technique et au niveau du son. Et ça le rend unique parmi les clarinettistes.
Quand il est sur scène, je vois aussi cet enfant qu'il est toujours pour moi quelque part.
Bienvenue, chers auditeurs, dans leur belle saison. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Vous le savez, le dimanche à 18h sur France Musique, vous avez rendez-vous avec un jeune musicien bourré de talent qui a brillé de mille feux la saison dernière. Enfin, ça fait un moment que notre invité d'aujourd'hui brille sur les scènes du monde entier. Et pourtant, il n'a même pas 20 ans, Jean-Baptiste.
Bah non, ce sera le mois prochain, Nicolas, mais comme le dit le Cid, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Or donc, à 8 ans, notre jeune invité commence la clarinette. 3 ans plus tard, à 11 ans, il se produit en soliste, en Chine. À 12, il sort son premier disque. Son deuxième, ce sera 3 ans après, nommé Révélation aux Victoires de la Musique Classique. À 15 ans, il a joué entre autres avec Martha Argerich, avec Gidon Kremer ou encore avec le quatuor Prazak. Et cerise sur le gâteau, il vient de remporter le concours international des jeunes artistes concertistes de New York, mais ne vous attendez pas à un jeune prodige tendance bête de foire. Non, non, celui que nous recevons aujourd'hui est un musicien accompli qui joue tout par cœur et avec le cœur. Bienvenue dans la belle saison de Raphaël Sévère.
Thank you.
Claude Debussy, un extrait de la Rhapsodie numéro 1 pour clarinette et piano en si bémol majeur. C'était Igor Tchétuev au piano. Et puis c'était notre invité, Raphaël Sévère à la clarinette. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Cet enregistrement date de 2012 au Festival Radio France à Montpellier. Il s'en est passé des choses depuis cet enregistrement. Et notamment cette saison, cette belle saison où vous avez remporté, Jean-Baptiste le disait, le célèbre prix du concours international des jeunes artistes et concertistes de New York. Vous avez eu le premier prix. Mais alors, en plus, vous avez raflé 8 prix spéciaux. Enfin, c'est un peu extraordinaire quand même.
Ah, c'était une sacrée expérience. Et puis déjà, c'était ma première fois sur le sol américain, qui était déjà un peu un rêve pour moi depuis tout petit, d'aller à New York. Et puis, j'avais un peu idéalisé ça. Et donc, en plus, c'est vrai que c'est un très grand concours qui est vraiment une super opportunité pour nous, instrumentistes avant. Car en fait, c'est un concours qui est ouvert à tous les instruments, voire les petits ensembles, je pense aux quatuors, les chanteurs, etc. Et donc du coup, nous souvent, nos concours entre clarinettistes restent du coup dans le circuit de la clarinette. Et puis on a très peu de concours vraiment qui nous permettent comme ça d'un peu de s'exposer et de s'exporter de manière comparable un peu aux autres instrumentistes tels que piano ou les cordes. Et donc du coup, c'était vraiment un bon concours et puis que j'avais beaucoup préparé. Et c'était un beau souvenir.
Ça marche parce que du coup, vous allez retourner plus souvent aux États-Unis. Vous avez des engagements, ça vous a permis de vous faire connaître.
Oui, absolument. En fait, le but de ce concours, c'est vraiment un début de lancement de carrière en fait aux États-Unis, qui est quand même un circuit complètement différent. Hein. C'est une agence qui est la YCA, donc Young Concert Artist, qui nous signe en fait pour 3 ans. À raison de 2 tournées par an là-bas, dans des super salles d'ailleurs, hein, au Lincoln Center à New York ou au Kennedy Center Hall à Washington, etc., pour nous faire connaître là-bas.
Et... Alors que vous n'aviez jamais mis un pied aux États-Unis. C'est quand même formidable.
Oui.
Finalement, ça ne nous étonne rien que vous ayez remporté ce prix. Si je fais un petit point sur votre carrière du haut de vos 20 ans, je sors ma liste. À 11 ans, premier concert en Chine avec orchestre. À 12 ans, vos premières radios chez notre ami Gaël Le Gallic sur France Musique. Oui. À 14 ans, vous rentrez au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. À 15 ans, vous êtes révélation soliste instrumentale aux Victoires de la Musique. C'est dingue, je m'arrête là parce qu'on pourrait aller jusqu'à la fin de l'émission comme ça. Vous êtes un enfant prodige, un surdoué en somme.
Oui, enfin, je sais pas trop, mais en tout cas, oui, c'est vrai que ça a toujours marché assez vite, en fait, pour moi, à la clarinette. Donc ça, c'est super, parce que j'ai pas commencé, en fait, par la clarinette, j'ai commencé par d'autres instruments, notamment le piano, où il fallait que je travaille beaucoup et où ça marchait pas super bien, enfin, normalement, mais... Bon, et après, j'ai commencé la clarinette et je travaillais peu et ça marchait très bien. Donc, du coup, après, j'ai continué et puis c'est vrai que c'était quand même assez précoce, oui, assez jeune tout ça.
Vous nous avez dit que vous aviez commencé par le piano. Il y a quelqu'un qui nous en a parlé, c'est votre père, Raphaël Sévère.
Vers 6 ans, même 5 ans, il voulait faire de la clarinette comme papa. Mais il faisait déjà du piano comme maman. Alors, je n'ai pas voulu, en fait. Il rêvait de faire de la guitare, de la trompette. Alors, on l'a mis au violon à 5 ans, il a fait un stage de 6 mois d'initiation, violoncelle de 6 ans et 8 ans. Ça marchait même plutôt bien, d'après son prof. Mais bon, il se tenait comme un cochon, parce que vous savez, à 6 ans, quand on est un garçon de 6 ans, l'archer, c'est tout sauf un archer. Hein. C'est un arc, c'est une flèche, enfin voilà. Et à 8 ans, un jour, en rentrant chez moi, j'ai entendu de la clarinette. C'était mon fils qui jouait dans mon bureau de la clarinette. À force de me voir jouer, monter mes anges, mes becs, tout ça, par mimétisme, il s'était pris au jeu. Et puis, il y avait 2 copains. Il était en train de jouer quelques notes devant 2 copains. Et là, je lui ai dit, mais tu veux vraiment faire de la clarinette? Mais oui, papa, etc.
Alors, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé?
Ben oui, oui.
Alors, il faut qu'on explique que votre père a une place très importante dans votre parcours, parce que c'est un grand pédagogue. Il est professeur de clarinette au Conservatoire de Nantes. Et c'est avec lui, après cette histoire, que vous allez étudier.
Oui, tout à fait. Parce que c'est vraiment, moi, ce que je pense de mon père. C'est quelqu'un qui, depuis très jeune, en fait, a toujours voulu enseigner depuis ses 17-18 ans et qui vraiment a fait de la pédagogie une vocation. Et donc, du coup, il est... c'est vrai qu'il a une classe de clarinette au Conservatoire de Nantes qui est vraiment très, très, très bonne. C'était tout simplement le meilleur que j'avais à m'apporter. Donc...
Et ce n'est pas trop dur de travailler avec son père, la clarinette, quand on l'a déjà à la maison? Vous n'aviez pas envie de vous aérer la tête? Parce que là, c'est plus un loisir, finalement, c'est un devoir familial, quelque part.
Alors c'est vrai qu'il y a eu des moments assez difficiles où c'était pas toujours très, très simple en fait la relation d'élève à professeur, parce qu'il y avait cette relation d'enfant à père, et pour moi c'était très difficile de faire la part des choses et de dissocier. Par exemple, mon père, quand j'étais au conservatoire, qui me disait « Mais tu peux pas me parler comme si on était très proches, est-ce que t'es en présence d'autres personnes, et t'es dans un cours collectif, etc. » Donc ça, c'était pas vraiment facile.
Fallait lui dire « vous », par exemple.
Non, pas à ce point-là, mais fallait pas citer d'anecdotes de la maison ou de choses comme ça, évidemment. Hein. Je le comprends bien, mais... Mais je dois dire qu'il s'y est vraiment très bien pris, puisque à aucun moment je me suis senti ni forcé, ni j'ai eu aucun rejet. Donc voilà, je suppose que vraiment ça s'est très bien passé. Ouais.
Et en plus, vous étiez très doué et un très très bon élève au conservatoire. Je crois que vous avez sauté plein de classes.
À 9 ans, je suis rentré directement au conservatoire en 3e cycle. On y rentre normalement plus tard. Ouais.
Alors que vous avez commencé à 8 ans, donc ça veut dire que vous avez
en
sauté
un an, ouais, j'ai fait,
8 niveaux en un an.
Oui, je ne l'explique pas trop, hein, mais bon, mon père à la maison me donnait ses cours, il me faisait avancer, et puis j'avais pas de blocage ni rien, donc on continuait. Et...
On lisait avec Jean-Baptiste Urbain hier dans un article de La Croix de 2010 que vous pensiez que, quand vous étiez petit, que la musique était le seul métier sur Terre.
Ça, c'était quand j'étais tout petit, hein, je tiens à le préciser. Mais c'est vrai qu'à la maison, moi, j'entendais toujours de la musique. Et puis, dans un environnement aussi de, non seulement, du coup, ma famille, mais aussi leurs amis, donc mes amis, étaient tous des musiciens. Et donc, du coup, moi, je pensais que c'était naturel et que tout le monde, quelque part, était amateur de musique ou faisait de la musique. Et c'est pour ça que moi, ça m'est venu très, très naturellement.
Vous avez fait vos premiers concerts en famille et vous avez fait vos premiers disques en famille aussi. On écoute un extrait avec votre père.
Le troisième mouvement vif de la sonate pour deux clarinettes de Francis Poulenc avec Raphaël Sévère et Yves Sévère, extrait de votre premier disque, Raphaël, enregistré donc à 12 ans, c'était il y a presque 8 ans déjà. Comment il est né ce premier disque ? C'est un premier disque récital à 12 ans, c'est pas très très banal.
Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois en fait que c'était une idée de mon père. Il voulait faire comme une espèce de photo, souvenir un peu, de comment je jouais à 12 ans. Parce que c'est, pour un instrumentiste avant, c'est quand même très jeune, parce que on voit souvent des très jeunes prodiges au piano, aux instruments à cordes. Mais quand même, à la clarinette, il y a des impératifs qui font qu'on ne peut pas être aussi précoce. Déjà parce qu'il faut attendre d'avoir un certain nombre de dents définitives, une certaine tonicité corporelle et puis un physique, hein, tout simplement, pour le souffle. Puis ça met du temps à construire le son et tout ça. Et donc lui, à 12 ans, il s'est dit, c'est quand même déjà assez exceptionnel. Donc il faut qu'on fasse comme ça un disque qui nous servira juste de souvenir, de carte de visite. Et puis on a enregistré ce concert. Ouais.
Et ensuite, vous partez à Paris un peu plus tard.
Alors ça s'est passé 2 ans plus tard, à 14 ans. Ça s'est passé encore une fois assez naturellement. Mon père m'a dit, voilà, t'as le niveau, donc tente le concours, fais-le. C'est
pour rentrer au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris,
ouais,
le CNSM.
Tout à fait, ouais. Et qu'il y a d'autres instrumentistes qui le font, donc pourquoi pas finalement à la clarinette. Et puis voilà, donc j'ai tenté et puis ça a marché.
Donc au revoir Nantes, au revoir Vertoux précisément, cette petite ville oui. Vignoble nantais. Et vous arrivez à 14 ans à Paris. Alors là, on va presque sortir de la musique. Comment un gamin de 14 ans, il arrive tout seul dans son appartement, dans sa cité U à Paris?
Eh bien oui, c'est... évidemment, c'était pas facile. Parce qu'en fait, moi, je voulais pas être à l'internat du conservatoire. Parce que comme je l'ai dit avant, j'étais à l'école par correspondance, donc je voulais continuer. Donc j'ai tout de suite eu, en fait, à 15 ans, un appartement tout près du CNSM.
Le rêve.
Et ouais, mais donc du coup c'est pas évident parce que je me suis retrouvé propulsé comme ça sans parents ni personne en fait à faire la vaisselle, les machines à laver, enfin tout ce qu'il faut quoi. Et donc c'était quand même assez formateur.
Ça se passe comment quand on a eu comme professeur de clarinette pendant 6 ans son propre père et que voilà un étranger, un prof du CNSM, ça s'est passé facilement? Est-ce qu'il a fallu tuer le père, comme dit Freud?
C'est une histoire assez belle quand même. C'est que je suis rentré en fait dans la classe de Michel Arignon au CNSM, qui était, parce qu'aujourd'hui il n'est plus prof là-bas, mais qui était pendant près de 30 ans en fait le professeur du CNSM de Paris. Et mon père a étudié avec lui, étant jeune. Donc du coup, il y avait vraiment cet héritage, en fait, cette affiliation. Donc du coup, je n'entrais pas chez un étranger, mais chez la personne qui avait appris la clarinette à mon père. Et puis qui est un formidable, formidable pédagogue aussi, Michel Arignon, et il n'y a eu aucun problème, ni rien.
Et ensuite, Philippe Béraud.
Je l'ai eu qu'un an, en fait, Michel Arignon, il a pris sa retraite. Et donc ensuite, Philippe Béraud, dans un style tout à fait différent, que j'ai adoré aussi, la chance...
Clarinettiste à l'Orchestre de Paris.
Oui, clarinettiste à l'Orchestre de Paris. Et quand on a la chance de côtoyer des musiciens comme ça, exceptionnels, après, au-delà même du plan pédagogique, il y a une espèce de mimétisme, rien qu'à lui parler, à prendre des anecdotes, des histoires, à l'entendre. Il n'y a même pas vraiment de cours, il y a juste à écouter et à prendre tout ce qu'on peut, quoi.
Alors qu'est-ce qu'il avait de particulier, l'élève Raphaël Sévère? Eh bien, c'est la question que nous avons posée à Philippe Béraud.
Il y avait déjà une chose fondamentale, c'est-à-dire un sens musical. Et en fait, une envie aussi de comprendre le sens de la phrase, la structure. Et il réfléchit quand même beaucoup. C'est-à-dire qu'il a un jeu quand même spontané. Hein, musicalement, il arrive à avoir de la souplesse. Mais c'est structuré, c'est ce qu'il fait. C'est peut-être ça qui le distingue par rapport à son âge, cette maturité. Je pense que ce qu'il distingue en particulier, c'est qu'une sorte de professionnalisme déjà. Il est capable de jouer avec un orchestre, un concerto de Nielsen par cœur, sans mettre ou de Copland, sans que ça pose aucun problème.
Cette maturité qui revient quand on parle de vous alors que vous n'avez pas 20 ans, c'est quelque chose dont vous avez conscience, Raphaël Sévère?
Évidemment, difficile de s'en rendre compte, mais bon, comme on me le dit souvent, ça m'a vraiment touché, hein, ce qu'il a dit, Philippe Béraud, ce témoignage. C'est vraiment super gentil de sa part. Mais oui, c'est vrai, je me souviens parce qu'il avait entendu mon concerto de Nielsen, justement. C'est pour ça qu'il en reparle.
Il parlait aussi du concerto de Copland. Bah, je vous propose qu'on vous écoute dans le final de son concerto pour clarinette, harpe, piano et orchestre à cordes. Thank you.
Et bien voilà ce concerto pour clarinette, harpe, piano et orchestre à cordes d'Arne Copland. Raphaël Sévère, vous à la clarinette, c'était l'orchestre d'Auvergne sous la direction de Roberto Forest Bessès. Et c'était un enregistrement de la folle journée à Nantes. Et ce concert, je crois, était à 9h du matin.
Oui, absolument, pas évident. Hein.
Les joies de la folle journée.
La folle journée a quand même eu vraiment beaucoup d'importance en fait dans mon parcours parce que René Martin est vraiment... Je le remercie énormément pour ça, a été
le fondateur de la folle journée.
Oui, et l'organisateur de beaucoup d'autres festivals.
La Roque d'Anthéron en ce moment.
Tout à fait, la Grange de Mêlée, et puis différentes folles journées aussi au Japon, à Tokyo, ouais. etc. Ça a été en fait un des tout premiers à me faire confiance et puis à me programmer au même titre que les autres musiciens, en fait, dès l'âge de 12 ans, 13 ans. Et à m'envoyer au Japon, à jouer en soliste à 13 ans. Et il a vraiment eu confiance en moi. Et c'est précieux. Et je le remercie énormément parce que c'est pas évident.
On précise également que René Martin, c'est le directeur du label Mirare, chez qui vous venez d'enregistrer un disque qui va sortir...
Dans quelques jours.
Dans quelques jours, exactement, que vous retrouvez dans les bacs un disque Brahms, dont on parlera tout à l'heure et dont on écoutera un extrait. Vous le disiez, René Martin vous a aussi fait confiance pour jouer avec orchestre. Et ça, c'est quand même pas gagné pour tout le monde, pour tous les clarinettistes, parce que finalement, le répertoire pour clarinette n'est pas si important, surtout en concerto, non ?
Par rapport aux autres instruments avant, c'est quand même la clarinette et celui, je dirais, qui a le plus de vieux répertoires parmi les bois. Après, très connu du grand public, passer le concerto de Mozart, effectivement, après, il y en a moins. Hein, donc, c'est pour ça qu'il faut aller chercher les Weber, Rossini. On a quand même Rossini, Mendelssohn, qui sont des grands compositeurs. Après Copland, Nielsen et beaucoup évidemment de concertos modernes et contemporains, mais on joue pas autant en soliste que les violonistes, etc.
Vous faites de la scène depuis que vous êtes tout jeune, depuis que vous êtes enfant. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand vous êtes face à un public et qu'est-ce que vous ressentez au moment où vous rentrez sur scène ?
Ça, je crois que ça dépend à chaque fois du contexte. Évidemment, il y a des concerts où j'ai plus le trac qu'à d'autres. D'ailleurs, c'est pas forcément une question de taille de salle ou de nombre de spectateurs. Parfois, je peux jouer dans des toutes petites salles, mais avoir beaucoup de trac parce qu'il y a vraiment une proximité face au public, ou que je sais qu'il y a telle ou telle personne qui est venue m'écouter, ou voilà. Après, il y avait ce concert dernièrement, qui était en mai à Tokyo, où j'ai eu vraiment l'immense honneur de jouer avec Martha Argerich et Gidon Kremer. Et là, quand on rentre sur scène à leur côté, là, ça, c'est vraiment émouvant.
C'est émouvant ou c'est une pression terrible face à deux grands noms comme ça ?
Non, je dirais que c'est surtout émouvant. Eux mettent très à l'aise. Donc du coup, ils nous libèrent de cette pression. Après, bon, qui peut demeurer quand même, parce que quand on se dit, pour moi, les deux vraiment sont des légendes. Moi, j'ai leur enregistrement que j'écoute depuis que je suis tout petit, des enregistrements de référence absolue. Et donc, c'est très particulier. Je crois que... Il y a un moment où on pense plus trop à grand chose, tellement le cerveau est en ébullition en fait. Donc finalement, on se concentre juste sur la musique et puis on joue et c'est formidable.
On parlait d'orchestre, il y a un chef d'orchestre qui nous a dit quelques mots sur vous.
Le niveau, ces dernières années, il faut dire que dans le monde d'ailleurs, le niveau des musiciens classiques a augmenté d'une manière incroyable. Donc évidemment, il a toutes les qualités, je dirais, de virtuosité, technique, de connaissance du répertoire. Mais il a une petite chose en plus qui n'est pas vraiment explicable. Quand il joue, vous avez la chair de poule, quoi. Et ça ne s'explique pas forcément. On pourrait analyser en disant il phrase de telle manière, mais voilà, je crois que c'est quelque chose qui vous prend par la main et puis vous emmène avec son instrument comme s'il chantait. C'est son plus à lui, je crois. Voilà.
Le chef d'orchestre, Alain Altinoglu, est pianiste. J'imagine que ça doit faire plaisir de tels compliments venant d'Alain Altinoglu.
Ah bah c'est vraiment très touchant. Vraiment, oui. Parce que de la part d'un tel musicien, aujourd'hui un des plus grands chefs d'orchestre dans le monde, c'est, Ouais, c'est vraiment... Merci.
En attendant, on va vous écouter tout de suite dans un disque pour lequel vous étiez invité par le couple mythique Nora Gubisch et Alain Altinoglu dans une des folk songs de Berio.
Oh signolet du bois, oh signolet sauvage, apprends-moi ton langage, apprends-moi à parler, apprends-moi la manière, comment il faut aimer, comment il faut aimer, comment il faut aimer, je m'en vais vous le dire. Faut chanter des aubades de 2 heures après minuit, faut lui chanter l'appel, c'est pour vous réjouir, c'est pour vous réjouir. On m'avait dit la belle que vous avez des pommes de rainette qui sont dans votre jardin. Permettez-moi la belle que j'y mette la main, que j'y mette la main. Non, je ne permettrai pas que vous touchiez mes pommes. Prenez d'abord la lune et le soleil en main, puis vous aurez les pommes qui sont dans mon jardin, qui sont dans mon jardin.
On signale des bois, extrait des folk songs de Luciano Berio avec Nora Gubisch, Alain Altinoglu et puis la clarinette qu'on entend au loin. Bah c'est vous, Raphaël Sévère, un disque tout récent qui est sorti il y a quelques semaines. Je voudrais qu'on parle un petit peu de cet instrument, la clarinette. C'est un instrument que vous avez entendu in utero, dans le ventre de votre mère, parce que votre père en jouait. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce son-là? Est-ce que vous vous souvenez pourquoi vous avez été attiré par ce son et par cet instrument?
Bah, ça remonte à loin, là.
On en parlait tout à l'heure.
Exactement. Non, je crois qu'il y avait quelque chose qui me touchait, en fait. C'est que, déjà, il y a une grande tessiture qui s'étend sur plus de 4 octaves. Et donc, beaucoup de possibilités. Et beaucoup de timbres différents. C'est-à-dire, dans ce grave un peu chalumeau, très boisé. Et après, avec ces aigus qui peuvent faire penser à des oiseaux, voilà, on a la possibilité vraiment de faire beaucoup de couleurs. Et on a vraiment aussi une palette de nuances qui est quand même assez phénoménale, parce qu'on peut faire naître le son à partir de rien, jusqu'à ce qu'il soit vraiment très très fort. Et toutes ces possibilités-là m'attiraient, en fait, comme une sorte de grand chantier, qu'on pouvait vraiment façonner son propre son, parce que c'est un peu comparable, finalement, au chant. Enfin, en tout cas, c'est très lyrique, parce qu'on joue vraiment avec la respiration, avec le souffle, la gestion du souffle. Et évidemment, si on envoie de l'air très chaud, et ben, ça donnera un son très doux, très chaleureux. Alors que si on va mettre beaucoup plus de pression d'air, de vitesse d'air dans un conduit plus étroit, on aura beaucoup plus du côté percussif. Enfin, tout dépend. Tout ça, c'est dans la bouche. Il y a plein de possibilités.
Vous parliez de répertoire avec Nicolas, on parlait de Mozart, de Weber, de Rossini. Dans la musique d'aujourd'hui, est-ce que le clarinettiste Raphaël Sévère trouve son bonheur ?
Absolument, absolument. Parce que déjà, il y a énormément d'œuvres écrites depuis la seconde moitié du XXe siècle pour clarinette. Et puis aujourd'hui, il y a toujours beaucoup de concertos pour clarinette décrits chez les Français. Il y a eu Eskech, Ersan récemment. Et après, j'ai fait plusieurs créations, notamment celle de Jean-Frédéric Neuburger, que j'admire vraiment, et un ami, et à qui j'ai passé une nouvelle commande qu'on va créer l'année prochaine pour un quatuor, clarinette, piano et 2 guitares.
Ah oui.
Amplifié. Et donc du coup, ça, c'est complètement inédit, mais je fais confiance à Jean-Frédéric pour nous emmener.
Vous l'admirez beaucoup, il vous admire beaucoup, mais pas seulement comme clarinettiste, Raphaël.
C'est quelqu'un qui a vraiment très peu de limites, à la fois technique et au niveau du son, et ça le rend unique parmi les clarinettistes. Mais ce n'est pas seulement ça qui le rend unique, c'est tout à fait autre chose. C'est que Raphaël, et on le sait moins, est un musicien extrêmement complet, c'est un compositeur. Il m'a montré de nombreuses pièces. Il faut savoir que quand même, à la folle journée de Tokyo en 2013, quand il est venu dans ma chambre pour me montrer ce qu'il avait écrit dans l'avion, il avait réussi à pondre durant le vol d'avion 3 pièces pour clarinette et piano. 3 pièces totalisant 14 ou 15 pages de musique, avec parfois d'ailleurs des accents personnels, voilà, des choses un peu bartokiennes, etc. Et donc, Je me suis dit, voilà, quelqu'un qui non seulement est un virtuose, mais qui en plus a cette oreille interne, ce sens musical dont parle Schumann dans ses conseils aux jeunes musiciens. Il dit, essayez d'aller toujours dans l'harmonie naturelle, etc. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qu'a Raphaël, et sur lequel il continue d'ailleurs de travailler. Et je suis très impatient de voir ce que ça donne, à la fois comme les arrangements de pièces qu'il fera, et aussi ses compositions originales pour clarinette et piano qui sont tout à fait intéressantes.
Alors, elles sont devenues quoi, ces pièces composées dans l'avion?
il a lâché le morceau. c'est quelque chose que je garde pour le moment secret.
Trop tard.
Il n'était pas content, Raphaël, hein, pendant qu'on entendait le petit Bob.
Non, mais ça me touche énormément ce qu'il dit. Mais c'est vrai que je doute beaucoup de moi. Et c'est vrai que j'attends vraiment d'être amplement satisfait à 100% de quelque chose avant de le dévoiler. Mais c'est vrai que Jean-Frédéric m'incite beaucoup, et puis c'est lui vraiment un compositeur incroyable, vraiment. Et donc du coup, j'apprends énormément de lui, de ses pièces, et on a cette relation aussi de création, et puis avec des discussions sur les analyses d'œuvres, sur plein de choses qui sont toujours très très enrichissantes, et vraiment c'est quelqu'un de formidable.
En musique de chambre aussi, c'est l'un de vos partenaires privilégiés, comme on dit.
Bah oui. Pour moi, vraiment, déjà, c'est un de mes pianistes préférés, Jean-Frédéric. Et je suis absolument fan de ce qu'il fait. Et donc, c'est vrai que quand on joue ensemble, on réfléchit vraiment. Et puis, on arrive à donner des versions assez structurées, qui vont dans un sens quand même toujours assez bien, je trouve.
Finalement, votre tout premier partenaire, ça a sans doute été votre mère, la pianiste Tune de Hdou,
oui.
Avec elle vous avez enregistré vos deux premiers disques. Oui. Alors comment ça se passait, les enregistrements entre mère et fils?
Avec ma mère, ça s'est vraiment très bien passé. Et puis, il faut dire que c'est une excellente pianiste, hein, quand même, hein, qui était...
professeur à Saint-Nazaire.
Oui, tout à fait. Mais qui, avant ça, en fait, qui est hongroise et qui était à l'Académie Franz Liszt, dans la même classe que Zoltán Kocsis ou que Dezső Ranki. Donc, qui joue vraiment très, très bien. Et donc, du coup... moi, j'ai une relation de musicien, en fait, pendant les enregistrements.
Donc ça, c'est la version du fils. Maintenant, on écoute la version de la mère.
Au début, premier CD, on a enregistré quand il avait 12 ans. J'ai eu un petit peu plus d'autorité en disant, mais Raphaël, non, tu peux pas faire ça ici, comme ça, etc. Mais il a eu toujours beaucoup de caractère, beaucoup de pensée musicale. Donc, il s'est pas laissé faire. Et petit à petit, il est vraiment pris dessus. Et à la fin, c'est lui qui m'a critiqué en disant, mais tu ralentis. Ici, il ne faut pas que tu fasses ceci, cela. Avec Raphaël, c'était d'être un petit peu conflictuel.
Un magnifique lead de Cossetto avec vous, Raphaël Sévère, et votre mère au piano. Raphaël Sévère, à quoi ressemble votre vie de tous les jours, aujourd'hui ?
Depuis que j'ai terminé en fait le CNSM, ma vie en fait se ponctue avec tous les concerts et les rendez-vous comme ça importants. Et donc, entre, c'est du travail, c'est aussi du repos parfois, parce que quand on fait une tournée de plus d'un mois en Asie, faut quand même de la récupération. C'est beaucoup de sport aussi, ouais. Et puis aussi du divertissement et des amis.
On arrive à garder des amis quand on voyage tout le temps comme ça ?
Alors oui, c'est pas facile, et c'est le sentiment de parfois de solitude dans tous les trajets et tous les voyages qui m'a donné envie de créer une sorte de petit ensemble qu'on a fondé avec David Petrelic, Théo Fouchenray et Volodia Van Keulen, l'ensemble Messian, qui est d'ores et déjà résident à la Fondation Polignac, et on va avoir nos premiers concerts très rapidement. Et donc voilà, j'espère qu'on ira assez loin avec ça.
Ben on a hâte de vous entendre, et en plus allier le plaisir et la musique. C'est pas mal quand même. On a une petite surprise pour vous, Raphaël Sévère. On va écouter quelqu'un qui vous connaît bien.
Raphaël, c'est une boule d'énergie. C'est-à-dire que je pense que c'est exactement ce qu'il lui faut pour pouvoir monter sur scène et pour pouvoir monter des programmes immontables. C'est un grand sportif. Et c'est vrai qu'il saute partout, qu'il est très enthousiaste, qu'il est très vivant, qu'il est absolument fougueux et passionné. Et que c'est un caractère qui parfois peut être perturbant, je pense, parce que ça peut dépasser des gens assez calmes, mais qui m'amuse beaucoup. Et quand il est sur scène, je vois aussi cet enfant qu'il est toujours pour moi quelque part.
C'est beau ce qu'elle dit, votre sœur Chloé.
Oui. Oui. Je n'attendais pas du tout.
Oui, vous avez quand même mis, on ne lui dira pas, mais vous avez quand même mis 15 secondes avant de reconnaître sa voix.
Je sais pas. Mais oui. Mais en fait, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit elle, c'est pour ça.
Elle est musicienne, votre sœur, elle est claveciniste.
Ouais.
Vous auriez envie de jouer ensemble, même si vos instruments, a priori, ne se marient pas tous les jours.
Oui, bah voilà, c'est ça le problème, c'est que clarinette et clavecin, on n'a pas grand-chose, hein, à part peut-être quelques contemporains, mais pas de quoi faire tout un programme. Alors que oui, évidemment, j'aurais vraiment envie, parce que c'est une super musicienne aussi, et que j'écoute souvent, et puis pourquoi pas un jour, et susciter la création aussi, pourquoi pas.
En attendant, on ira vous voir en concert les 9 et 11 septembre à Saint-Jean-de-Luz, avec Jean-Frédéric Neuburger notamment.
Ouais.
Le 18 septembre, vous serez en Allemagne. Le 22 septembre, vous serez à Chalon-sur-Saône. Puis après, vous partirez vers Varsovie. On peut retrouver toutes les informations sur votre site internet. Et puis, il y a ce disque dont nous parlions tout à l'heure, le disque Brahms, qui va sortir dans quelques jours chez Mirare. Quand vous avez composé le programme de ce disque avec Adam Laloum et Victor-Julien Laferrière ?
Les sonates de Brahms, c'est du grand répertoire de clarinette, et donc on les a beaucoup jouées en concert avec Adam, et donc du coup c'est venu assez naturellement, et donc accompagné des sonates, le trio aussi avec Victor, Julien Laferrière, et voilà, parce qu'il y avait, je crois, une envie commune en fait de jouer, ça marchait très bien, et puis donc comme c'est ce qu'on connaissait le mieux, c'est ce qu'on a voulu transcrire sur disque.
Le final allegro du trio pour clarinette, violoncelle et piano, opus 114 de Johannes Brahms, avec Raphaël Sévère, Adam Laloum et Victor-Julien Laferrière, disque Mirare qui sort dans quelques jours. Allez, c'est l'heure des conseils et recommandations des vieux sages. Pas vraiment, ils n'ont qu'à peine 10 ans de plus que vous, et de leurs claviers respectifs, piano et clavecin, Jean-Frédéric Neuburger, puis votre sœur Chloé Sévère s'adressent à vous, Raphaël.
Je pense qu'il accorde peut-être un peu plus d'importance à la musique qu'à d'autres aspects de la vie, et il a bien raison. Et je pense que finalement, il n'y a pas de drogue plus douce, il n'y a pas de manière d'être plus riche pour un artiste qui veut aller loin. Justement, il ne faut pas changer cette espèce de boulimie vivifiante de musique et de notes et d'harmonie qui fait son caractère.
Les conseils, en fait, c'est quelque part ce qu'il est déjà en train de faire maintenant, c'est-à-dire de prendre soin de lui, de continuer comme ça, parce que je pense que si il s'arrête, il meurt. Quelque part, c'est sa vie, c'est son rêve. Et de pour autant vivre sa vie en tant qu'homme. L'homme sans le musicien, ça ne le complétera pas en tant qu'homme. Et le musicien sans l'homme, je pense que c'est pareil. Il pourrait pas survivre.
Voilà, leçon d'une grande sœur. Alors la musique pour survivre, c'est à ce point-là, docteur?
C'est vrai que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire que quand j'en fais pas, j'en écoute. Quand j'en écoute pas, j'en ai toujours dans la tête. Et puis, j'ai toujours été comme ça. Donc moi, ça me dérange pas. Au contraire.
Et quelle musique? Pas que le classique.
Pas toujours que le classique. Non. J'écoute parfois un peu de jazz, aussi pas mal de rock.
Rock metal.
Ah ouais, assez hard rock. Enfin, moi, j'aimais bien les Guns N' Roses et Slash et tout ça.
Linkin Park, ça vous parle? Vous aimez ou pas?
Ouais. C'était un peu mon péché mignon. C'est un peu l'aspect un peu défouloir. C'est vrai que c'est quand même assez violent, mais je trouve que c'est dans un bon esprit, au final. Ça fait du bien aussi, de temps en temps, de voir un peu de gros sons.
Merci Raphaël Sévère, au revoir Nicolas Lafitte.
Au revoir Jean-Baptiste Urbain, merci à Stéphane Demont à la technique, à Géraldine Prutner qui a réalisé cette émission et à Pauline Boisaubert, attachée de production. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Il est 19h sur France Musique, bonsoir Jean-Pierre Derrien.